Buonasera a tutti. Questa sera voglio parlarvi di Scipione Borghese. Scipione Caffaro di Borghese, nato ad Arsena, vicino a Roma, nel 1577 e morto a Roma nel 1633. Mi dispiace, ma non posso continuare in italiano. Allora, je vais continuer en français. Je tiens à remercier Claude Viviani qui a réalisé le montage des photos. Il a fait un très beau travail, comme vous allez le voir. Enfin, nous avons fait un très beau travail en collaboration. L'exposé sera divisé en trois parties principales. Nous allons parler d'abord de la famille Borghese, de Camillo, le pape, Paul V, et de Scipione, et de la constitution des collections. Ensuite, on parlera du casino Borghese, qu'on appelle communément en France la galerie Borghese ou la villa Borghese, mais c'est un casino. Et on fera une visite du musée. Et on terminera en parlant de Pauline et Camillo Borghese et de l'achat des antiques Borghese par Napoléon Ier. Je vais vous présenter les deux protagonistes principaux qui apparaissent au début de l'histoire. La famille Borghese est l'une des plus célèbres familles romaines de l'époque baroque. Cependant, les Borghese ne sont pas tout à fait d'origine romaine. En effet, la famille vient de Sienne, en Toscane. Ils arrivent à Rome en 1554, alors que la ville de Sienne est tombée sous la domination de la famille Médicis de Florence. La puissance et la richesse des Borghese s'est affirmée quand l'un des leurs, le cardinal Camillo Borghese, a été élu pape en 1605 sous le nom de Paul V. Vous avez son portrait à droite, c'est un portrait de Ludovico Leoni, et à gauche, c'est un buste qui a été sculpté, comme vous voyez, par Gian Lorenzo Bernini, qu'on appelle le Bernin en France. Ce pape, très entreprenant, a mené une politique urbaine très active dans sa capitale. Il voulait embellir la ville de Rome à l'instar de la gloire qui sied à son nom. Durant son pontificat, il fit ravaler les façades vétustes et aménager des places ornées de fontaines. En effet, il accorda une grande importance à l'approvisionnement en eau. Des places entourées d'arcades, des escaliers, des fontaines sont les éléments qui caractérisent la tendance novatrice de la politique urbaine des Borghese. Il fit ajouter la chapelle Pauline à l'ensemble de Maria Maggiore. La chapelle Pauline, ça n'a rien à voir avec Pauline Bonaparte, ou Pauline Borghese, mais c'est la chapelle du pape, construite par le pape Paul V. Qui deviendra, on l'appellera aussi la chapelle Borghese. Et il ordonna l'agrandissement du palais du Quirinal et du Vatican. À la fin du XVIe siècle, le cardinal Camillo Borghese acquitte un palais construit en 1560 qui allait devenir le Palazzo Borghese. Rien à voir avec la villa, hein, c'est le grand palais principal. Situé sur la Via di Ripetta, près du mausolée d'Auguste, pas très loin du Tibre. Quand il partit pour le Vatican, le pape Paul V l'offrit à ses deux frères, qui l'agrandirent vers le Tibre, faisant appel à l'architecte Flaminio Ponzio, dont nous reparlerons à plusieurs reprises, à qui l'on doit la forme originale du palais. Il est surnommé, ce palais, il Cembalo Borghese, le clavecin Borghese, en raison de sa forme qui rappelle un couvercle de clavecin. Ce palais devint celui de la famille Borghese, c'est le plus important palais de Rome, il est sobre à l'extérieur, raffiné à l'intérieur. Alors, vous avez l'entrée, c'est un énorme palais, hein. Vous voyez le plan, cette entrée-là se trouve ici, il s'étend sur la grande façade qui donne sur une place ici. Il y a une deuxième façade ici, il y a des cours intérieures avec des galeries et un jardin intérieur orné de sculptures, etc. C'est un énorme palais. Donc ici, c'est l'entrée du côté de la Via di Ripetta. Cette façade correspond à cette façade-ci. Voici à nouveau, alors c'est le palais, la Via di Ripetta est de l'autre côté, ça c'est l'autre façade. Et ce que l'on voit ici correspond à cette façade monumentale qui est ici. Voilà une vue aérienne du palais, hein, c'est le plus grand palais privé de Rome, avec l'entrée, la via di Ripetta est là, l'entrée, la grande façade, la façade principale qui donne sur la petite cour, l'autre façade encore, la cour intérieure avec des galeries, des jardins intérieurs, etc. Paul V mène aussi une importante activité politique en Europe, ainsi que sur le plan religieux. Bien évidemment, il aida aussi beaucoup son ambitieuse famille, et notamment l'un de ses membres les plus illustres, son neveu, le cardinal Scipione Borghese, qui fut surtout un grand amateur d'art, comme vous le savez. Il est à l'origine de la célèbre villa et de sa splendide collection. Il fut un mécène clairvoyant, quoique pas toujours scrupuleux, comme nous le verrons tout à l'heure. Une précision, Orazio et Artemisia Gentileschi, dont je vous ai parlé la dernière fois, sont contemporains de Scipione. Artemisia avait 40 ans à la mort de Scipione, elle avait 15 ans de moins que lui. Scipione n'est pas né Borghese, mais Caffarelli, patronyme de son père, il est le fils d'Hortensia Borghese, sœur du pape, et du duc Francesco Caffarelli. Paul V a été élu pape le 16 mai 1605. Deux mois plus tard, le 18 juillet, il nomma Scipione Caffarelli Borghese cardinal à 27 ans. Le nouveau pape, soucieux de s'entourer de personnes sûres et de placer ses parents et ses amis aux postes les plus lucratifs, lui donna le droit d'utiliser le nom Borghese, ainsi que des armoiries. Scipione semblait peu fait pour porter l'habit ecclésiastique. Dans sa prime jeunesse, il avait étudié la philosophie au Collège romain des Jésuites et mené joyeuse vie à l'université de Perugia. Il occupa plusieurs postes honorifiques. Je vous dis, vous avez vu le magnifique buste du Bernin et le portrait est d'Ottavio Leoni, qui est le fils du précédent peintre qui avait peint le portrait de Paul V. Donc voici les quelques postes honorifiques qu'il occupait. Il fut légat du pape en Avignon, archiprêtre du Latran. Préfet de la Congrégation du Concile, abbé de Saint-Grégoire au Caelius, bibliothécaire de la Sainte Église romaine, grand pénitencier, camerlingue du Collège des cardinaux, c'est la plus haute autorité de Rome après le pape, et préfet des brefs apostoliques, préfet de la Signature de Grâce, archevêque de Bologne, archiprêtre de Saint-Pierre, protecteur de la Sainte Maison de Lorette, protecteur des Flandres, de l'Allemagne et des ordres dominicains et camaldules. Un formidable cumul des mandats, et aussi un formidable cumul des revenus. En outre, Paul V confia à son neveu, tant qu'à faire, la gestion des finances, à la fois de la papauté et de la famille Borghese. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Scipione avait une maxime en tête. Il n'existe pas de situation plus dangereuse au monde que celle d'un neveu après la mort de son oncle. Surtout quand cet oncle est le pape. Léon XI, le précédent pape, avait survécu 27 jours à son élection. Élu le 1er avril, il est mort le 27. Inutile de vous dire que les neveux n'ont pas eu le temps de s'enrichir. Pour faire échec à un inévitable retournement de situation, le cardinal neveu devait accumuler tant de biens que nul ne parviendrait jamais à l'en déposséder totalement. Sous son propre nom et au nom du pape, il amassa une fortune considérable grâce aux frais et taxes papales. Pour assurer une stabilité financière à long terme, il acheta des villes entières et autres vastes propriétés, y compris environ un tiers des terres au sud de Rome. Il obligeait souvent les propriétaires à vendre en lui consentant des rabais substantiels. L'arrivée de Scipione à Rome en 1605 a donné lieu à un petit scandale. Scipione Borghese avait un ami intime du nom de Stefano Pignatelli, qui était protonotaire apostolique. C'est une distinction honorifique donnée à certains prélats. En arrivant à Rome accompagné de son ami Stefano, à qui il était étroitement attaché, Scipione provoquait une grande colère de son oncle le pape, d'autant que Stefano acquit un tel ascendant sur le cardinal que ce dernier faisait tout en fonction de ses conseils. Peu de temps après, le pape exila Pignatelli de Rome. Selon ses détracteurs, cette décision a été prise parce que l'amitié est très proche entre Scipione et Stefano, menaçait de discréditer à la fois la papauté et la famille Borghese. Mais Scipione tomba gravement malade, probablement une profonde dépression. À la vue de son neveu terriblement affligé par la séparation forcée, Paul V s'est radouci et a permis à Pignatelli de revenir à Rome avant la fin de l'année 1605. Scipione recouvra la santé dès le retour de son ami. Par la suite, ce dernier a vécu pendant de nombreuses périodes prolongées dans le Palazzo Borghese, dans le Grand Palazzo. Scipione lui a attribué divers honneurs ecclésiastiques et a même pris des dispositions pour qu'il soit nommé cardinal peu de temps avant la mort de son oncle en 1621. Cependant, en l'absence de preuves contraires, il est possible que cette relation affective soit restée platonique, ce qui n'était pas le cas de nombreux prélats de cette époque. Scipione meurt à Rome le 2 octobre 1633 à l'âge de 56 ans. Il est enterré dans la chapelle borghese de Santa Maria Maggiore. Comment Scipione a-t-il constitué ses collections ? Scipione fait partie des grands et fanatiques collectionneurs, fait partie des plus grands et fanatiques collectionneurs de l'histoire de l'art. Sa collection commence par un héritage familial, quelques sculptures antiques et des tableaux de maîtres toscans. Il va constituer l'une des plus grandes collections d'art de l'Italie. Collectionneur passionné, il était prêt à tout, y compris l'extorsion et le vol, pour mettre la main sur une œuvre importante qu'il convoitait. Il faut remarquer son éclectisme, mais aussi la sûreté de son goût. En effet, s'il constitua une remarquable collection d'antiques, s'il rassembla une prestigieuse collection de peintures des XVe et XVIe siècles, il se passionna pour l'art moderne de son temps et il fut le mécène de ses deux artistes favoris et artistes majeurs que furent le Caravage, Michelangelo Merisi da Caravaggio, et le Bernin, Gian Lorenzo Bernini. Sa collection est méthodique. Pour chaque artiste, il tente d'acquérir plusieurs œuvres représentatives des différents aspects de son style. Le pape Paul V soutenait volontiers les efforts de son neveu pour obtenir les œuvres d'art qui avaient suscité son intérêt. Le 31 juillet 1607, Paul V confisqua 107 tableaux au peintre Giuseppe Cesari, qu'on connaît sous le nom de Cavalier d'Arpin, qui avait été incapable de payer la totalité de ses impôts, et il remit les tableaux à son neveu. Parmi les tableaux acquis par Scipione lors de cette saisie se trouvent deux des premières œuvres du Caravage, un autoportrait habituellement appelé Bacchus malade et un garçon avec un panier de fruits que nous verrons plus tard. L'année suivante, c'est grâce à l'influence de son oncle que Scipione a obtenu le tableau de Raphaël intitulé La Déposition, qui se trouvait dans la chapelle privée de la famille Baglioni de l'église San Francesco de Perugia. Avec la complicité du curé de la paroisse, Paul V fit enlever nuitamment le tableau pour le donner à son neveu. C'est un vol qualifié. En 1616, le peintre Domenico Zampieri, qu'on appelle le Dominicain, passa quelques jours en prison pour avoir refusé de remettre au cardinal Scipione son tableau appelé « La chasse de Diane ». Inutile de dire que le tableau a intégré immédiatement les collections du cardinal. Cependant, d'autres œuvres ont été acquises légalement. En 1608, la collection s'enrichit de peintures ferrarese, en particulier de Dosso Dossi. Mécène avisé, Scipione commanda directement de nombreuses peintures au Caravage, à Rubens, à Lanfranco, au Guerchin, à Guidorini, à Claude Dervé, etc. Rappelons qu'il fut aussi le grand protecteur de Gian Lorenzo Bernini. À la mort de Scipione en 1633, le casino Borghese était rempli d'œuvres d'art exceptionnelles. La collection s'enrichira encore ultérieurement. Au bel ensemble de sculptures et de peintures s'ajoute une collection de marbre antique. La collection se constitua principalement par trois moyens complémentaires. L'achat en bloc d'ensembles déjà constitués, ou d'une statue en particulier appartenant à tel ou tel propriétaire qui est parfois encouragé à s'en défaire. L'acquisition de marbre mis au jour sous le règne de Paul V et l'organisation ponctuelle de fouilles sur les vastes domaines de la famille. En 1607, les héritiers de Tiberio Ceuli, un très riche banquier, vendent leur collection à Scipione, soit 178 antiques. Les Borghese prennent possession de marbres pédigrés prestigieux, en particulier la Res Borghese et la Vénus en armes, que nous verrons vers la fin. D'autres acquisitions sont plus ponctuelles, comme les Trois Grâces, achetées à Mutuo Mattei en 1608. Toutes ces œuvres que j'évoque là se trouvent maintenant au Louvre. Nous verrons pourquoi plus tard. En octobre 1609, Paul V, après de longues négociations, achète la célèbre collection de Tommaso della Porta. Plus de 200 statues, torses, bustes, sarcophages sont acquis. Le pape offre l'ensemble à son frère Giovanni Battista. Scipione ne disposera complètement de cet ensemble qu'après la mort de son oncle Giovanni Battista et de Paul V en 1621. Les Della Porta étaient une famille de sculpteurs, à la fois restaurateurs et marchands, très renommés au XVIe siècle. C'est donc un stock de statues déjà remis en état ou en attente de l'être qui entre dans la collection borghese, parmi lesquelles le groupe d'Oreste et Pilade que nous verrons plus tard. C'est la Res Borghese et la Vénus en armes. J'ai oublié que j'avais cette photo. Donc, le sanglier assis, il est en marbre gris, hein, il n'est pas sale, c'est un marbre gris, c'est une œuvre magnifique, et le centaure dompté par l'amour que nous verrons à la fin. En effet, au XVIIe siècle, il est impensable de présenter un marbre dans son état lacunaire. Chaque œuvre doit être complétée par des ajouts modernes. Les grandes familles confient ces restaurations aux sculpteurs de renom qu'elles soutiennent. Pour Scipione, Pietro Bernini, son fils Gian Lorenzo et Nicolas Cordier seront chargés de ces travaux de restauration. Une bonne partie des marbres antiques retrouvés durant les travaux urbains de Rome entrèrent directement dans la collection personnelle du cardinal Scipione en qualité de don de la papauté. Les Borghese organisent aussi des fouilles sur leurs nombreuses propriétés. C'est à Anzio, antique Antium, que le gladiateur Borghese, on en reparlera plus longuement plus tard, est mis au jour vers 1609, sculpture qui devient immédiatement la pièce maîtresse de la collection. La collection de peintures et de sculptures de la famille Borghese devient bientôt l'une des plus vastes de Rome et la question de son exposition se pose. Les œuvres sont dispersées dans plusieurs palais. Dès 1608, un projet monopolise l'attention de Scipione qui envisage de rassembler toutes ses collections au sein d'un seul écrin monumental. Il va faire édifier une magnifique villa sur la colline du Pincio. Je vais commencer par quelques précisions de vocabulaire. Normalement, quand on parle de la villa borghese, cela comprend le parc et l'ensemble des bâtiments qui s'y trouvent. Comme vous le savez, le mot latin villa désigne un domaine foncier comportant des bâtiments d'exploitation et d'habitation. Pour désigner le bâtiment principal, nous devrions utiliser le terme de casino. Le casino désigne une petite résidence de campagne. Parfois, elles sont très jolies, les petites résidences de campagne. On devrait donc parler du casino de la villa borghese. Donc je ferai comme ça au début, après je changerai. En 1605, Scipione Borghese fait l'acquisition de parcelles de terrain sur la colline du Pincio, dans les environs de la Piazza del Popolo. Alors, voilà, elle est ici. La Piazza del Popolo est ici. Vous voyez ce qu'on appelle la villa borghese, c'est tout le parc qui va jusqu'au Tibre. La Villa Médicis est ici, le mausolée d'Auguste est ici, et le grand palazzo est juste au sud du mausolée d'Auguste. Nous allons faire un petit tour dans le parc. Alors, vous voyez ici l'entrée principale que l'on va voir en photo. La villa est située essentiellement au nord du mur d'Aurélien, ici, de l'enceinte d'Aurélien. On fera un petit tour à l'intérieur près du lac Borghese avec un petit temple là. On ira sur la Piazza de Sienne, sur la place de Sienne avec le petit casino de l'horloge. Il y a plein de musées et autres ailleurs. Hein. Et la galerie Borghese, la villa Borghese, enfin, le nom que. Quelque chose. Non, se trouve ici. La Piazza del Popolo est juste ici, hein, et communique par une arche avec la place qui donne sur l'entrée du parc. L'entrée principale, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai oublié de vous dire qu'à l'intérieur de la ville d'Aborghese, en fait du parc, il y a en plus un zoo et un bâtiment dont je vais vous parler tout de suite. Alors voilà l'entrée, avec ces deux petits temples surmontés des deux emblèmes de la famille Borghese, que sont l'aigle qui est au sommet du fronton et les dragons. C'est l'aigle et le dragon, mais les dragons sont aux quatre angles du bâtiment. Ce sont les deux emblèmes de la famille Borghese. Voici le petit lac avec son temple, la place de Sienne avec son petit musée de l'horloge, dont on parlera rapidement tout à l'heure. C'est un très joli cadre. Et je vous ai parlé du zoo, mais ça c'est la petite volière qu'il y avait. Alors, le casino fut conçu par les architectes Flaminio Ponzio, dont nous avons parlé tout à l'heure, et l'Hollandais Jan van Zanten, mais son nom a été italianisé en Giovanni Vassanzio, et fut pensé non seulement pour contenir les œuvres, mais comme une véritable oasis de la culture, la villa est elle-même une œuvre d'art. Flaminio Ponzio édifia le bâtiment entre 1612 et 1613. C'est lui qui élabora les proportions des volumes des salles, l'ordre dorique de l'architecture extérieure, avec des fenêtres et des portes ouvrant des quatre côtés sur les jardins, ce qui à l'époque était assez nouveau. À sa mort, il est relayé par Vassanzio, qui est responsable de l'ornementation et de l'aménagement complexe des façades, richement décorées de reliefs et de stucs, achevées en 1619. Les façades sont couvertes de sculptures antiques. Ce sont des antiques, hein, c'est pas les copies. 44 statues, 67 bustes, 134 reliefs romains ornent les murs extérieurs, sur les quatre côtés. Les appartements ont pour fonction la présentation des œuvres et les réceptions officielles. Le luxe s'étale partout dans une débauche de matériaux précieux. Des sculptures antiques sont aussi disposées dans les salles de la villa. Elles y sont confrontées aux chefs-d'œuvre du Bernin ou du Caravage. Antiques et modernes, peintures religieuses et marbres païens dialoguent selon des critères avant tout esthétiques dans le goût de Scipione. Cela évoluera plus tard. En effet, entre 1770 et 1800, la villa connue, avec Marc-Antonio IV Borghese, c'est le père de Camillo Borghese qui a épousé Pauline, hein, Marc-Antonio IV. La deuxième étape fondamentale de son évolution, Marc-Antonio IV compte parmi les mécènes les plus éclairés de la Rome néoclassique. En 1763, le prince hérite la villa et les collections amassées par les Borghese depuis le début du XVIIe siècle. Il décide d'en faire remodeler la décoration et la présentation des œuvres. Les travaux sont confiés à l'architecte Antonio Asprucci. Si les façades demeurent pratiquement inchangées, les espaces intérieurs sont modifiés. Les éléments décoratifs, plafonds peints, frises, corniches, colonnes, stucs, décors en marbre polychrome, s'exprime dans un néoclassicisme coloré, c'est l'état que nous connaissons encore actuellement. Au XVIIe siècle, les antiques étaient disséminées sur les deux niveaux de la villa. Dans le nouvel aménagement, elles sont regroupées au rez-de-chaussée. Dans chaque salle, un chef-d'œuvre à mettre en valeur est accompagné d'autres sculptures qui sont en relation. Des peintures de paysages mythologiques reprennent les thèmes des sculptures centrales. Quant au sujet chrétien, pour l'essentiel des peintures, ces sujets sont rassemblés à l'étage. En revanche, les sculptures modernes continuent de côtoyer les antiques. Le Bernin est jugé à l'égal des anciens qui ont nourri son œuvre. Ainsi, dans la salle d'Apollon et Daphné, le groupe du Bernin était associé aux Trois Grâces. Les Trois Grâces se trouvent actuellement au Louvre. En 1791, le peintre anglais Gavin Hamilton entreprend des fouilles sur des terres appartenant à Marc Antonio IV. Il découvre le forum de la ville de Gabis, ou de Gabi avec deux i à la fin, et trouve de nombreux marbres. Marc Antonio lui achète toutes les sculptures en bon état et ouvre un musée de Gabis dans le casino de l'horloge, qu'on a vu tout à l'heure, donc dans l'enceinte du parc. Ses œuvres quitteront Rome pour Paris lors de l'achat de la collection d'antiques par Napoléon Ier. Parmi les chefs-d'œuvre figure la Diane de Gabis. À la fin du XIXe siècle, les spéculations immobilières dans le quartier eurent une issue désastreuse pour les finances de la famille, et le prince Paolo fut obligé de vendre la Villa Borghese à l'État italien. Après de nombreuses négociations, de longues négociations, le Parlement autorisa son acquisition en décembre 1901. La villa fut vendue pour seulement 3 600 000 lire. La somme comprenait les jardins, le bâtiment, les 557 peintures et les 314 sculptures qu'il contenait. Aujourd'hui, le musée est organisé sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, nous trouvons presque toutes les sculptures et quelques tableaux, alors que le second niveau accueille la pinacothèque. À l'extérieur, nous retrouvons les deux emblèmes de la famille Borghese, l'aigle et le dragon. La villa a été restaurée en 1995 et 97, aussi bien à l'extérieur avec la restauration des façades qu'à l'intérieur. Vous voyez, l'état dans lequel la villa se trouvait avant sa restauration, je pense que cette couleur rouille était dû au fait que la couche de couverture, que la peinture blanche avait disparu, et parce que la villa est entièrement construite en briques, hein, évidemment. Et donc, voici l'état actuel. Oui, il y a un tout petit changement. Vous remarquez aussi, par rapport au document qu'on a vu tout à l'heure, que toute la décoration extérieure a disparu. Elle se trouve pour l'essentiel au Louvre. Il y a juste la partie centrale. Pardon, je vais mettre la belle photo quand même. Où on a reconstitué à peu près le décor qu'il y avait à l'origine sur toutes les façades. Nous allons maintenant parcourir les salles du musée. Voici le plan des deux niveaux. Alors nous allons, c'est le rez-de-chaussée et le premier étage. Nous allons entrer par le portique. Nous allons entrer ensuite dans le grand salon d'entrée et nous tournerons ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La première salle, la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On suivra le parcours de salle en salle. J'attire votre attention sur le fait que la première salle se trouve dans l'entrée à droite. C'est là que se trouve la célèbre sculpture de Canova représentant Pauline Borghese. Et ici, c'est la galerie des empereurs. Alors, cette galerie des empereurs, c'est une grande salle très allongée, c'est la plus grande de la villa. Et au premier étage, c'est la même chose. Il y a une grande galerie, c'est la galerie Lanfranco. Quand je parlerai de la galerie des empereurs et la galerie Lanfranco, vous pourrez la situer, c'est en haut du plan. Pour le premier étage, on tournera plus rapidement parce que ce sont les peintures qui sont intéressantes. Voici donc le portique de la villa qui abrite des statues et reliefs romains antiques. Alors, je vais attirer votre attention sur un aspect des collections qui restera valable pour toutes les photos des salles du musée que vous allez voir. En 1807, Napoléon a acheté toute la collection d'antiques de la villa Borghese, mais le prince Camillo Borghese, donc c'est le mari de Pauline, ne confondez pas avec le pape, a reconstitué la collection en moins de 10 ans. Toutes les antiques que vous verrez dans les salles appartiennent donc à la deuxième collection d'antiques borghèses. Vous voyez qu'il y en a trouvé pas mal, parce que rien que le portique est rempli d'œuvres romaines, d'antiques romaines. Voici le salon d'entrée. La décoration intérieure a été magnifiquement restaurée. Tous les murs, tous les plafonds sont couverts de fresques aux motifs très complexes, chargés de détails. Elles ont retrouvé la fraîcheur de leurs couleurs, leur grande délicatesse de ton. Les murs sont souvent traités en camaïeu harmonieux, relevés d'une note colorée plus vive. De nombreux trompe-l'œil ornent les plafonds. La fresque du plafond est de Mariano Rossi. Elle représente l'apothéose de Romulus accueilli par Jupiter sur l'Olympe. Alors, je vais revenir à cette photo. Vous voyez, c'est un groupe équestre, voilà, célèbre, que l'on va revoir. Et on parlera également des deux antiques qui se trouvent aux deux extrémités de la salle. Donc, celui-ci. Donc c'est un monument équestre. Le héros Marcus Curtius se sacrifie pour le peuple en se lançant dans le gouffre du forum romain. Marcus Curtius est un jeune héros romain qui se voit aux dieux infernaux pour sa patrie. Un large gouffre s'étant ouvert au milieu du forum romain et l'oracle ayant déclaré qu'il ne se refermerait que lorsque Rome y aurait jeté ce qu'elle avait de plus précieux, Curtius, déjà célèbre par ses exploits, se précipita tout armé dans l'abîme. Le gouffre, dit-on, se ferma aussitôt. À l'époque du cardinal Scipione, le cheval antique a été restauré. Seul le cheval est antique. Mais il a été complété par la figure de Marcus Curtius, sculptée par Pietro Bernini, sur l'ordre de Scipione. Pietro Bernini, c'est le père de celui qu'on appelle le Bernin, qui était sculpteur aussi. Deux belles sculptures antiques ornent les deux extrémités de la salle, un Bacchus à gauche, proche de l'arc de Praxitèle, et un satyre combattant en position d'attaque inspira le mouvement du David du Bernin, que nous verrons dans peu de temps. Au sol, il y a une très grande mosaïque des gladiateurs qui fut trouvée dans une des propriétés des Borghese. Là, je vous montre juste un détail. Nous entrons dans la première salle à droite, la salle de Pauline, qui était auparavant la salle du vase, du fameux vase Borghese, qui maintenant est au Louvre. En entrant dans cette salle, nous découvrons Pauline Bonaparte, devenue Borghese, représentant en Vénus Victrix, par Antonio Canova. Pauline Borghese avait la réputation d'être l'une des plus belles femmes de son temps. Canova a immortalisé la beauté victorieuse de Pauline en une sublime Vénus de marbre couchée sur un divan. Nous reparlerons de Pauline plus tard. Magnifique, hein ? Après la restauration, elle aussi, elle a été restaurée. La salle du soleil. Dans cette salle, nous trouvons la première sculpture de Gian Lorenzo Bernini, le David. Bernini fut surnommé le second Michel-Ange. Son art, typiquement baroque, est caractérisé par la recherche du mouvement, la torsion des formes, le spectaculaire et les effets d'illusion. Le cardinal Scipione Borghese commanda quatre groupes qui occupèrent le Bernin pendant 5 ans. Il s'agit de 3 sujets mythologiques et d'un sujet biblique. Avec ses 4 œuvres, le Bernin atteint une gloire immédiate. La première sculpture est datée de 1609. Elle représente Énée en Chise et Ascagne. Puis, de 1621 à 1622, il sculpte le rapte de Proserpine. Ensuite, Apollon et Daphné, ils travaillent dessus pendant 3 ans, de 1622 à 25, et pendant ce laps de temps, ils trouvent le moyen, donc de 23 à 24, 1623-24, ils sculptent le David, que vous avez sous les yeux. Alors, un petit détail, les sculptures du plafond, ce sont des trompe-l'œil. Hein, les trompe-l'œil sont époustouflants dans toutes les salles, c'est une merveille. Le David est une sculpture en marbre de 1,70 m de haut. Suivant l'esprit baroque, Bernini représente David quelques instants avant que celui-ci envoie la pierre qui tuera le géant Goliath. D'autres sculpteurs de la Renaissance, comme Donatello, Verrocchio, Michel-Ange, que vous avez sous les yeux, ont représenté David, mais toujours dans une position statique. La vision baroque du Bernin est élaborée dans le mouvement et saisit les diverses expressions corporelles qui manifestent l'effort en une pose sinueuse. Le héros est représenté à l'instant où il est au maximum de la tension, aussi bien physique que mentale. Selon la tradition, David est un adolescent. Bernini, comme l'avait fait Michel-Ange, le représente en jeune homme vigoureux. La cuirasse prêtée par le roi Saül est posée par terre, de même que la harpe, dont l'extrémité est en forme de tête d'aigle, qui rappelle l'un des emblèmes de la famille Borghese. Avec cette œuvre, le Bernin, âgé d'à peine 25 ans, se mesure avec l'icône insurpassable de la Renaissance italienne, le David de Michel-Ange. L'un comme l'autre symbolise à la perfection l'art de leur temps. Autant l'œuvre michel-angelesque est posée, digne, élégante, autant le Bernin parvient, en représentant David sur le point de lancer son projectile à l'aide de sa fronde, le visage grimaçant sous l'effort, à réunir tous les éléments de l'art baroque, l'énergie, le mouvement, le dynamisme. Il s'agit peut-être du Bernin lui-même défiant le Goliath Michel-Ange. Pour son David, Bernini se serait inspiré de son propre visage. Dans la même salle, un tableau d'Annibal Carracci, Samson en prison. Dans la salle suivante, c'est la salle d'Apollon et Daphné. Là encore, toutes les niches du plafond, ce sont des trompe-l'œil. Hein. Ce sont des peintures en trompe-l'œil et des peintures à fresques en trompe-l'œil. C'est fabuleux. Au centre de la salle, nous découvrons une stupéfiante œuvre de jeunesse de Gian Lorenzo Bernini, Apollon et Daphné. Cette sculpture de marbre grandeur nature, commencée par le Bernin à l'âge de 24 ans, est exécutée en 3 ans. Elle a toujours été exposée dans la même salle de la villa. Le sujet est tiré, comme les autres, des métamorphoses de vide. La nymphe Daphné, victime des ardeurs du dieu Apollon, supplie son père, le dieu fleuve Péné, de lui venir en aide. Péné transforme alors sa fille en laurier et le Bernin capture ce moment précis dans une scène pleine de vie et de pathos. Il immobilise dans le marbre la jeune nymphe qui se fige dans une écorce protectrice et s'enracine dans la terre. L'écorce couvrira alors son corps, mais selon Ovide, la main d'Apollon pouvait toujours sentir battre son cœur. On ne peut que remarquer la tension dramatique, l'impression de mouvement donnée par une construction en spirale typique de l'art baroque en général, et marque de fabrique du Bernin en particulier. L'influence de la sculpture antique, ici l'Apollon du Belvédère, est clairement visible. C'est une évidence. Le Bernin connaissait évidemment l'Apollon du Belvédère, on voit que le rapprochement est évident. On est ébloui par l'extraordinaire finesse du travail. Les mèches de cheveux, les feuilles de laurier translucides, tous les détails sont étourdissants de virtuosité. Avec cette œuvre, le Bernin atteint un summum esthétique. Cette salle dédiée à Apollon et Daphné est un exemple qui illustre la cohérence de la décoration qui tourne autour d'un thème principal. Au plafond figure un tableau central sur le même thème, Apollon et Daphné par Pietro Angeletti. Il est entouré de magnifiques trompe-l'œil que vous avez vu tout à l'heure, les niches. Au centre de la salle se dresse donc la sculpture de Bernini, Apollon et Daphné. On trouve aussi une statue d'Apollon avec un griffon, une tête colossale d'Apollon du IIe siècle, et sur l'un des murs, une œuvre de Dossodossi, Apollon et Daphné. Apollon est en premier plan, et Daphné sur le côté, dans le lointain, à gauche. Donc, un grand nombre d'œuvres tournent autour d'un thème principal. Voici la Galerie des Empereurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'une des deux grandes salles tout en longueur. Cette grande et belle salle, dont la décoration des murs est traitée dans des tons ocre discrets, est simplement relevée par des médaillons hexagonaux au fond bleu vif. Vous voyez les petits médaillons ici. Les petits sujets peints en trompe-l'œil blancs ressemblent à des motifs de Wedgwood. Les lignes géométriques en marbre précieux du sol se prolongent dans les pilastres pour culminer dans les bandeaux divisant la voûte. Vous voyez un peu, l'ensemble de la décoration est d'une cohérence extraordinaire. Mais si je prends une ligne, par exemple, transversale, qui se prolonge dans les pilastres engagés et qui se poursuit ici dans les bandeaux du plafond. Quoi. Tout est conçu dès le départ pour faire un ensemble extraordinairement rigoureux, harmonieux et d'un luxe fantastique. Tout le sol en marbre là, est absolument magnifique. Les grotesques qui ornent la voûte sont d'une grande variété, de somptueux décors et d'un extraordinaire raffinement, plein de grâce et d'élégance. Au centre de la salle, le rapt de Proserpine, par le Bernin. Le groupe a été exécuté entre 1621 et 1622. Bernini avait seulement 23 ans à son achèvement. Le cardinal Scipione l'a donné au cardinal Ludovisi en 1622. La sculpture est restée dans la famille Ludovisi jusqu'en 1908. À cette date, elle a été achetée par l'État italien et elle est retournée dans la Villa Borghese. Ce grand groupe de marbre montre Pluton, puissant dieu des enfers, enlevant Proserpine, fille de Cérès. Pluton apparaît tenant triomphalement son trophée entre ses bras. Proserpine repousse le visage de Pluton en priant le ciel. Le vent souffle dans ses cheveux, ses larmes coulent sur ses joues. Et les larmes sont sculptées. C'est absolument extraordinaire. Alors je reprends ma phrase. Le vent souffle dans ses cheveux, ses larmes coulent sur ses joues. Alors que Pluton enfonce ses doigts dans la chair de sa victime, l'empreinte des doigts est sculptée avec un réalisme stupéfiant et participe aussi à l'effet dramatique du rapt. Ici, Bernini donne l'impression de travailler le marbre comme s'il s'agissait d'argile. Ce détail éblouissant contribue à faire de cette sculpture un chef-d'œuvre. Dans la même salle, un bronze d'Antonio Susini, le taureau Farnèse, c'est une version réduite d'après le célèbre et monumental groupe en marbre du musée archéologique de Naples. Nous passons dans la salle de l'Hermaphrodite. Alors, l'Hermaphrodite, qui se trouvait dans cette salle, à l'époque de Scipione, est maintenant au Louvre. Il a été remplacé par une autre version de l'Hermaphrodite, retrouvée en 1781. Nous reparlerons de l'Hermaphrodite du Louvre. La salle du gladiateur. Alors évidemment, cette dénomination est due à la célèbre sculpture en marbre d'Agagias d'Éphèbre. L'œuvre a rejoint la collection Borghese en 1721, fut transférée en 1808 au Louvre, achetée par Napoléon. Pendant la rénovation du XVIIIe siècle du casino, la salle eut comme thème iconographique la célébration de la force physique et du courage liée à la présence de la célèbre sculpture. La peinture du plafond et deux autres peintures sont en relation avec ce même thème, ainsi que plusieurs sculptures antiques, un pugiliste et un discophore que nous verrons plus tard. En 1888, à la place du gladiateur, le groupe en marbre figurant Énée et Anchise de Bernini fut transféré au centre de la salle. L'artiste le réalisa à l'âge de 21 ans, en collaboration avec son père Pietro. Le héros, fuyant Troie en flammes, emmène sur ses épaules son vieux père tenant les lars tutélaires dans la main et suivi de son fils Ascagne. Dans cette œuvre, Bernini reste encore sous l'influence paternelle. Il est sans doute fortement influencé par une fresque de Raphaël dans la chambre de l'incendie du Borgo. Le Borgo, c'est le bourg, mais c'est le nom d'un quartier de Rome que vous voyez à droite. D'un point de vue allégorique, l'œuvre représente les trois âges de la vie. Je parle de l'œuvre de Bernini. Anchise porte une statue des dieux lars. Il est lui-même porté par son fils aîné. Alors qu'Ascagne les suit en soutenant le feu sacré. Les trois personnages et la statue des ancêtres portée par Anchise constituent une représentation spatiale d'un arbre généalogique. Une autre sculpture de Bernini est présente dans cette salle, c'est La Vérité, une œuvre allégorique sculptée par l'artiste pour lui-même. Bernini avait prévu qu'une sculpture du temps en vol dominerait l'ensemble, mais il n'a jamais terminé son groupe qui aurait été intitulé « La vérité dévoilée par le temps ». Dans son testament, le Bernin destina la vérité à son fils aîné. L'œuvre demeura dans la famille Bernini jusqu'en 1924, année où elle fut transférée à la Villa Borghese. C'est une sculpture très baroque où l'on peut retrouver l'influence de Rubens dans la représentation féminine. La salle égyptienne. Le projet de la salle égyptienne participe à l'égyptomanie qui apparaît en Italie dès le XVIe siècle et se développe au XVIIIe. Les fouilles de Rome et de la villa d'Adrien à Tivoli livrent des statues égyptiennes d'époque pharaonique et ptolémaïque rapportées par les Romains, mais aussi des œuvres romaines égyptisantes dans le goût égyptien. En fait, d'antiquité égyptienne, la salle abrite seulement 3 petites œuvres et 2 inscriptions que je ne vous montrerai pas. En revanche, voici quelques sculptures qui ornaient cette salle et qui se trouvent maintenant au Louvre, dans la salle des manèges, ou du manège, pardon. Elles ont été achetées, elles aussi, par Napoléon en 1807. Au centre, une femme en prière entre 2 colonnes ioniques en porphyre rouge. C'est une orante du IIe siècle transformée en Junon. Acquise en 1609 par Scipione, cette sculpture appartenait au Della Porta. Donc, dans le réaménagement de la Villa Borghese, voulu par le prince Marc Antonio IV, l'orante figurait dans une niche entre 2 colonnes ioniques. Vous voyez comment les sculptures étaient disposées, hein. Il y avait une sculpture au centre et 2 colonnes. Là, ce ne sont pas des colonnes ioniques, mais les éléments qui sont au Louvre, ce sont des colonnes ioniques. Donc au Louvre, on a très sommairement reconstitué la disposition des œuvres qui se trouvaient dans cette salle. Il y a aussi une baignoire au premier plan, qui est en réalité une vasque de fontaine. Ça n'a jamais été une baignoire, hein. Ces œuvres en porphyre rouge, probablement d'époque romaine, évoquent l'Égypte. En effet, tout le porphyre connu à cette époque provenait d'Égypte. Pour compléter la décoration de la salle, des statues égyptisantes ont été commandées à Antoine Guillaume Grandjacquet, une Isis en marbre noir et albâtre, à gauche, et un Osiris Antinous en marbre noir à droite. Ces œuvres, vous les avez aperçues sur la photo précédente, sur les côtés, sont au Louvre. La salle du Silène. Alors évidemment, elle porte le nom du Silène tenant Bacchus enfant dans ses bras, qui est maintenant au Louvre. Aujourd'hui, à la place du Silène, il y a un satyre dansant restauré par Thorvaldsen. Dans cette salle règnent 6 œuvres de Michelangelo Merisi, dit Il Caravaggio, toutes très célèbres. Scipione possédait 12 toiles du Caravage. Vous les apercevez au fond, on va les voir plus en détail. Le garçon avec un panier de fruits, c'est un adolescent tient dans ses bras une corbeille de fruits qui est aussi une superbe nature morte. David, avec la tête de Goliath. En 1610, le Caravage souhaite rentrer à Rome pour obtenir sa grâce auprès du pape Paul V. Il embarque dans une felouque avec 3 tableaux, dont ce David, où il se représente sous les traits de Goliath, reconnaissable à la balafre reçue à Naples en 1606. Au cours d'un duel, il avait tué le fils lui-même très violent d'une puissante famille. Caravage avait été condamné à mort et avait dû fuir Rome. L'autoportrait saisissant pourrait avoir valeur d'œuvre expiatoire. Le peintre souhaitait-il l'offrir au pape pour le convaincre qu'il avait désormais reconnu son crime. La mort brutale en 1610 du Caravage au cours de ce dernier périple nous laisse dans l'incertitude, mais l'inscription sur l'épée, H-A-S-O-S. Alors, il faut la deviner ici. Qui peut être lu comme une abréviation de la formule latine « Humilitas occidit superbiam », « L'humilité tue l'orgueil », confirmerait cette hypothèse. Checco del Caravaggio joue le rôle du jeune héros victorieux. Il était à la fois modèle, serviteur et élève du peintre. On connaît quelques œuvres de Checco del Caravaggio, qui est ici sous les traits de David. Saint Jérôme écrivant, c'est une superbe composition, comme toujours chez Caravage, il n'y a pas de répétition dans la composition, même quand le sujet traité est identique. Caravage a peint plusieurs Saint Jérôme, tous très différents. Dans cette œuvre, on découvre une violente opposition de rouge et de blanc, dans des drapés larges, lourds et puissants. Saint Jérôme, plongé dans l'étude des textes, vêtu d'un drap rouge, bras étendus sur la table, méditatif, semble indifférent au monde extérieur. Son bras droit conduit au crâne, posé en pleine lumière sur la page blanche d'un livre. C'est une belle nature morte, une vanité, qui est constituée par les trois livres et le crâne. Le drap blanc, vigoureusement traité à grands coups de brosse, a la forme d'une faux dont la pointe de la lame serait dirigée vers le bas. Le beau visage buriné, réaliste de l'homme, est remarquable. Le visage et les mains sont très travaillés. C'est le même modèle qu'a posé pour Matthieu avec l'ange qui est à Saint-Louis des Français. L'autoportrait en Bacchus malade, le jeune Caravage est malade, les tons verdâtres sont dominants, le visage est d'un réalisme ordinaire, un peu vulgaire. Dans l'angle inférieur droit, Caravage a peint une petite nature morte pour obliger le regard du spectateur à balayer le tableau vers le bas, alors que nos yeux sont d'abord attirés par ceux de Bacchus. Manet reprendra cette idée dans plusieurs toiles. Saint Jean-Baptiste, assis sur un grand manteau rouge, le modèle est le même que celui de l'ange de Matthieu à Saint-Louis des Français. La même mollesse du ventre, la peau plissée, le visage non idéalisé, le peintre choisissait ses modèles parmi les gens du peuple et les ragazzi. La Madone des Palefreniers, appelée aussi la Madone au serpent. Ce tableau est une commande de l'archi-confraternité des Palefreniers pour orner l'autel de la chapelle Sant'Anna dei Palafrenieri, Sainte-Anne des Palefreniers, de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le Caravage montre Marie soutenant son fils, représenté assez grand et nu, qui appuie son pied sur le sien pour écraser un serpent. Sainte-Anne, patronne des palefreniers de Rome, observe la scène, les mains jointes, pensives, représentée en vieille femme, habillée sombrement, à contrario de la Vierge, habillée de pourpre, couleur de la Passion, et largement décolletée. Pour la Vierge, le peintre a pris le même modèle que pour la Madone des Pèlerins, c'est Léna, une prostituée, l'un des modèles habituels du peintre. Roberto Longhi souligne le caractère plébéien des deux femmes, Sainte Anne en vieille paysanne, Marie en lavandière, robe retroussée, et Jésus, nu comme Dieu l'a fait. Le 16 avril 1606, un mois seulement après son accrochage, la grande Madone au serpent récemment exécutée fut ôtée de l'un des autels les plus importants de la basilique Saint-Pierre, car le tableau fut considéré comme scandaleux et refusé par les seigneurs cardinaux de la fabrique de Saint-Pierre, en raison de la nudité de Jésus enfant jugé trop grand pour être représenté nu, et du décolleté trop profond de la Vierge, et aussi pour son manque de décorum. Si les prélats de Saint-Pierre ont rejeté les tableaux, un certain cardinal s'en est immédiatement porté acquéreur, et la Madone au serpent s'est retrouvée dans la collection borghèse. Un détail intéressant, les dernières recherches dans les archives ont établi que Scipione avait dit, dès les premiers stades de la commande, que le retable se retrouverait dans sa propre collection. De là à penser qu'il a manipulé tout le monde et qu'il s'est arrangé pour que le tableau soit refusé, pour s'en emparer, c'est tout à fait envisageable. Un tableau du Cavalier d'Arpin, Capture du Christ, qui se trouve dans cette même salle. Un tableau de Ludovico Cardi, Joseph et la femme de Poutifar. On accède au premier étage par un petit escalier en colimaçon sculpté dans du marbre blanc. Plusieurs toiles de Raffaello Sanzio, qu'on appelle Raphaël. Voici la déposition, ce tableau volé par Paul V et Scipione dans la chapelle Baglioni. Magnifique cœur. Il était prêt à tout pour l'obtenir. La Dame à l'hélicorne. Avant la restauration de 1935, l'œuvre comportait des retouches nécessitées par son mauvais état de conservation, qui représentait la Dame avec les attributs de Sainte Catherine d'Alexandrie. Il y avait la roue dentée et la palme. De ce fait, avant la restauration, la critique était partagée pour l'attribution de l'œuvre. Le nom de Raphaël s'est cependant dégagé des autres artistes florentins. La restauration de la peinture en 1935 a confirmé l'hypothèse de l'historien Roberto Longhi, toujours lui, et la suppression des lourds repeints ont révélé la licorne. Mais en 1959, des radiographies réalisées lors des travaux de restauration sur la peinture ont confirmé qu'à l'origine, à la place de la licorne, symbole de la chasteté, la dame tenait dans ses bras un chien, symbole de fidélité conjugale. Une autre œuvre de Raphaël, un portrait du pape Jules II. Alors, cette peinture a été volée de l'église où elle se trouvait par le cardinal Paolo Emilio Fondrati, neveu du pape Grégoire XIV, mort 10 mois après son élection. Le pauvre cardinal neveu n'a pas eu le temps de s'enrichir suffisamment, car quelques années plus tard, il a mis sa collection en vente et l'a vendue presque en totalité au cardinal Scipione Borghese. Cette peinture a quitté la collection Borghese vers 1790, elle est entrée en 1824 à la National Gallery de Londres, où elle se trouve toujours, mais elle a appartenu à Scipione. À gauche, un tableau du Pérugin, de Pietro Vannucci, il Perugino. C'est une belle œuvre, mais je vous ai mis en face la version du Louvre, qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus belle, quand même. Dans la chambre d'Hercule, que vous avez sous les yeux, vous apercevez au fond le tableau du Corrège. Danaé recevant la pluie d'or, daté de 1532. C'est une célèbre toile. La sensualité de cette peinture suscita l'engouement des cours européennes au point qu'elle passa entre les mains de nombreux propriétaires et voyagea d'une capitale à l'autre. Tout le monde voulait la voir. Madrid en 1532, Milan en 1584, Prague en 1621, Stockholm en 1652, Rome en 1654, Paris en 1721, Bruxelles en 1792, en Angleterre en 1798, et à Paris au début du XIXe siècle, où il fut acheté par Camillo Borghese en 1827. Un tableau de Lucas Cranac. Vénus et Cupidon avec un rayon de miel, il est environné d'abeilles. Et un tableau du Bronzino, Agnolo Tori il Bronzino, Saint-Jean-Baptiste, c'est une étonnante peinture très maniériste. Jean-Baptiste est assis dans une position qui semble toutefois assez inconfortable. Dans une autre salle, un tableau de Lorenzo Lotto, un très beau portrait de Mercurio Bois. Voici la galerie de Lanfranco qui est au-dessus de la galerie des empereurs. La voûte a été peinte par Giovanni Lanfranco, qui représente le Conseil des dieux. On va regarder ça un petit peu en détail, mais j'attire votre attention sur, là encore, les peintures du plafond sont des trompe-l'œil, hein, c'est des poussouflants, toutes les salles sont extrêmement différentes les unes des autres. Ici, ce sont quatre médaillons, quatre tondos de Francesco Albani qui représentent les quatre saisons. Et vous devinez ici sur la console une réduction du portrait équestre de Louis XIV, sculpté par Le Bernin. Cette sculpture a été réalisée en marbre et se trouve à Versailles, mais elle n'a jamais plu à Louis XIV. Qu'il l'a fait transformer. Peille, le sculpteur, l'architecte du Nouveau Louvre, a fait une fonte en plomb qui se trouve près de la pyramide. Voici donc le plafond qui représente le Conseil des dieux. Il y a tous les dieux d'Olympe, mais on va rester simplement sur un détail, le détail de la partie droite, où on peut reconnaître évidemment Apollon avec Diane à ses côtés, Mercure au-dessus, les trois Grâces à l'arrière-plan. Sur la droite, il y a le Silène, Bacchus qui est ici, un petit faune. Ici, il y a Arès avec Vénus, c'était son amant, hein. Et Amour, et là c'est Proserpine. Voici donc de Giovanni Lorenzo Bernini l'ébauche en terre cuite de la statue équestre de Louis XIV. Toujours de Bernini, la chèvre amaltée à l'étang Zeus et un petit satyre en marbre. On peut trouver deux autoportraits de Bernini, parce qu'il il a peint quelques peintures, il a fait quelques peintures. Voici l'un des autoportraits. Et du Guerchin, le fils prodigue, acheté en 1818 par Camillo Borghese. De Guido Reni, Moïse et les tables de la loi. De Hontorse, un concert. Vous voyez, ces œuvres sont typiquement caravagesques, hein, sont très représentatives de la peinture dominante du temps. Et de Lionello Spada, également un concert. La salle suivante, c'est la salle de. Ah non, pardon, il y a encore deux peintures de Rubens, une Pietà, très belle œuvre, et Suzanne et les vieillards. La salle suivante, c'est la salle de Paris et Hélène. Au plafond, une toile de Gavin Hamilton représente la mort de Paris, et il y a aussi deux épisodes de la vie de Paris. Alors, nous allons voir les... En détail, les deux dessus de porte, là, de Pacchetti, c'est les marbres rouges, sont très très beaux. Le tableau du Dominicain, dont on a déjà parlé, et puis un autre tableau d'un Franco à droite. Puis on verra encore un autre tableau. Voici les deux marbres de Vincenzo Pacchetti, représentant Jupiter avec son avatar, l'aigle, magnifique bas-relief. Et Apollon. Donc, de Domenico Zampieri, qu'on appelle le Dominicain, c'est Diane et ses nymphes. Voilà le grand tableau qui a valu la prison au peintre parce qu'il refusait de le donner à Scipione. De Giovanni Lanfranco, Norandino et Lucina, surpris par l'ogre. Le sujet est tiré du roulement furieux de l'Arioste. Du roulant furieux, pardon. Et de Federico Barocci, Aîné fuyant Troie, c'est ce tableau qui donna l'idée à Scipione de commander au Bernin une sculpture sur le même thème. La sculpture en question qu'on a vue tout à l'heure avec Anchise et Aîné. Hein. La chambre de Psyché, c'est la dernière salle, est réservée à la peinture vénitienne. Alors, c'est Antonello da Messine, un portrait d'homme. L'an dernier, Claude Alsac nous a parlé de ce peintre et de ce tableau. Sans être à proprement parler un peintre vénitien, Antonello a fait deux séjours à Venise et a eu une influence sur les peintres de cette ville. Un tableau de Véronèse, prédication de Saint Jean-Baptiste, de splendides étoffes orientalisantes revêtent les personnages, parmi lesquels trois hommes de générations différentes, coiffés d'un turban, écoutent le saint énonçant l'avènement du Christ. Dans cette peinture, très audacieuse du point de vue de la composition, Véronèse parvient à équilibrer la composition grâce à une profonde perspective sur la partie gauche du tableau. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il a regroupé tous les personnages très serrés sur la droite, et c'est très audacieux, il fallait équilibrer malgré tout la composition, il a réussi à le faire avec cette grande ouverture sur la gauche. L'éducation d'amour, avec Vénus évidemment. Et nous terminerons ce rapide aperçu des collections de peinture avec un chef-d'œuvre de Titien connu sous le nom de L'amour sacré et l'amour profane de 1514. Alors, Titien a peint ce chef-d'œuvre à l'âge de 25 ans. Il peignait des chefs-d'œuvre très jeunes à cette époque. Pour les noces de Niccolo Oralio et de Laura Bagarotto, la mariée, vêtue de sa robe blanche et assise près de Cupidon, est assistée par Vénus. Les deux femmes, d'une beauté parfaite, symbolisent respectivement la brièveté du bonheur terrestre, représenté par le vase contenant les joies, et le bonheur éternel et céleste, figuré par la lampe à huile où brûle la flamme de l'amour divin. Le titre actuel de ce tableau dérive d'une interprétation moralisante de la fin du XVIIIe siècle, alors que Titien voulait au contraire exalter l'amour sous sa forme terrestre et céleste. Conformément aux théories néoplatoniciennes partagées par Titien et son entourage, la contemplation de la beauté terrestre devait conduire à la perception de la perfection divine. Il n'y avait pas d'opposition entre les deux formes d'amour, comme le laisse entendre le titre actuel, qui est une mauvaise interprétation, en tout cas qui ne tient pas en compte l'intention du peintre. Le sarcophage serait le tombeau d'Adonis. En 1899, les Rothschild offrirent 4 millions de lire pour ce tableau, un prix supérieur à celui de l'ensemble de la villa et de ses œuvres d'art, évalué à l'époque, je vous l'ai dit, à 3 600 000 lire. Mais le prince Borghese préféra refuser, parce qu'il voulait absolument que la célèbre peinture restât dans la villa, alors que les Rothschild, s'ils l'avaient achetée, l'auraient transférée dans une de leurs propriétés. Heureusement, le tableau, emblème de la villa Borghese, ne quitta jamais les lieux. Nous allons maintenant parler de la collection des antiques Borghese qui se trouve au Louvre. Un mot sur les deux nouveaux personnages qui ont joué un rôle dans cette affaire. Le portrait de Pauline en princesse Borghese a été réalisé par Marie-Guillemine Benoît, qui est une femme peintre très importante à l'époque néoclassique, à l'époque napoléonienne. Pauline Bonaparte, née Paulina, est la sœur préférée de Napoléon Bonaparte. Très jeune, elle sera vite courtisée. En 1797, Napoléon lui fait épouser Charles-Victoire-Emmanuel Leclerc, un des meilleurs généraux de la République. Pauline accompagne son mari à Saint-Domingue, en Haïti, lors de l'expédition destinée à mater la rébellion menée par Toussaint Louverture. en dépit de la position de son frère et du fait des absences fréquentes de son mari en campagne, Pauline a de nombreuses aventures à Saint-Domingue. Épouse infidèle, elle s'occupe néanmoins avec courage de son mari qui avait contracté la fièvre jaune. Charles Leclerc meurt en 1802. Le désespoir de Pauline est spectaculaire. Elle se coupe les cheveux et les place dans son cercueil. Elle fait mettre le cœur de son époux dans une urne et rapatrie en France sa dépouille. Apprenant que le général Jean-Joseph Amable Humbert, l'un des chefs de l'expédition de Saint-Domingue, a une intrigue avec sa sœur Pauline, Bonaparte le fait rentrer en France et démettre de tous ses titres. La sœur du premier consul cherche vite un nouveau mari et le trouve en la personne de Camillo. Camillo Borghese, sixième prince de Sulmona. Sulmona se trouve dans les Abruzzes, à l'est de Rome. C'est un titre parmi d'autres, hein, il a toute une ribambelle de titres princiers. Camillo est un descendant de Jean-Baptiste Borghese, l'un des deux frères de Paul V. Il avait embrassé les idées révolutionnaires des troupes d'occupation françaises à Rome. Depuis la mort de leur père, le prince Marc-Antonio IV en 1800, Camillo et son frère cadet Francesco se partageaient un patrimoine de plus de 50 palais, villas, domaines et sémées de la Toscane à Naples, sans compter leur immense par les Romains et d'un revenu annuel considérable. Le prince romain avait ébloui la jeune veuve. Après son mariage en 1803, Pauline se lasse vite de Rome et de son mari et s'en vient habiter le château de Neuilly. Camillo Borghese part pour l'armée dans la garde consulaire. En 1804, Pauline habite rue du Faubourg Saint-Honoré dans l'hôtel Charost, devenu l'ambassade britannique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter cet hôtel particulier qui est l'ambassade britannique à l'occasion des journées portes ouvertes, des journées de patrimoine, pardon, mais ça vaut la peine, d'autant plus qu'ils ont conservé le mobilier impérial qui appartenu à Pauline. Le 2 décembre, elle se doit d'assister à Notre-Dame de Paris au couronnement de son frère devenu Napoléon Ier. Napoléon devenu roi d'Italie en 1805, Pauline est élevée au rang de grande duchesse de Guastalla. Et donc son mari est duc de Guastalla. En 1805, Napoléon nomme Camillo Borghese chef d'escadron et l'expédie au camp de Boulogne, en lui octroyant le grand cordon de la Légion d'honneur. Plus tard, Camillo ira se battre en Allemagne comme colonel des carabiniers. Pauline est débarrassée d'un mari gênant. Elle en profite pour se rendre aux eaux de Plombières, nécessaires à sa médiocre santé. Elle y rencontre Auguste de Forbin, qui est à la fois peintre et poète. La princesse tombe dans ses bras, le ramène à Paris et lui fait donner le titre de chambellan. Un jour, elle a le désagrément de voir arriver son mari, pourvu du grade de général. L'empereur a sans doute été mis au courant de la situation. Forbin reçoit en effet peu après l'ordre de rejoindre l'armée d'Espagne. Camillo Borghese est nommé gouverneur général des départements au-delà des Alpes par l'empereur qui ordonne à Pauline d'accompagner son mari à Turin, la nouvelle capitale. La princesse n'est pas contente, mais elle ne songe pas à désobéir. Plus sérieuse fut sa liaison avec un jeune colonel des hussards, Jules de Canouilly. Peu discret, ce beau sabreur se vantait volontiers de ses bonnes fortunes. Au cours d'une revue passée aux Tuileries, il arbora devant l'empereur des zibelines appartenant à Pauline. Napoléon reconnut les peaux que le tsar lui avait envoyées et qu'il avait offertes à sa sœur. L'amant indélicat fut aussitôt envoyé combattre en Espagne. Il fera ensuite la campagne de Russie et sera tué à la Moscova. D'autres amants subirent le même sort. Dès que Napoléon apprenait que Pauline avait un nouvel amant, il expédiait celui-ci vers un champ de bataille. Il avait le choix. Dans ses dernières années, elle se rapproche du prince Borghese et vit avec lui à Florence. Sa santé décline et elle meurt de maladie. Elle était syphilitique. 4 ans après son frère, en 1825, âgée de 45 ans, sans descendance. Son cercueil est transporté à Rome et repose aujourd'hui dans la chapelle Borghese de Santa Maria Maggiore à Rome. Un mot sur la sculpture d'Antonio Canova, Pauline Borghese en Vénus Victrix. Cette sculpture célébrissime a été récemment restaurée. La princesse posa pour le plus célèbre sculpteur du temps. On considère qu'Antonio Canova est le plus grand sculpteur néoclassique. Installée sur un lit de repos, nue jusqu'au bas des hanches, les seins provoquants, Vénus, sous les traits de Pauline, tient à la main la pomme que vient de lui décerner Paris. Cette pomme évoque la victoire de Vénus lors du jugement de Paris qui devait choisir entre Junon, Minerve et Vénus. Vénus victrix signifie Vénus victorieuse. Cette œuvre est considérée comme un sommet de la sculpture néoclassique. Voici ce que raconta Canova à propos de Pauline. Je lui ai proposé plusieurs fois de se faire représenter, non en Vénus, mais en Diane, déesse de la chasteté, mais elle n'a pas voulu. Le sculpteur métamorphose la sœur de Napoléon en une divinité antique à la pose classique emplie d'une noblesse paisible. Pour une telle personnalité, la pose lascive et surtout le fait d'être à moitié dévêtue fit scandale. L'éclat de la sculpture est dû non seulement à la finesse du marbre, mais aux patines de cire qui la recouvrent et qui ont été conservées. Elle devenait encore plus charnelle à la lueur des flambeaux. Le support en bois drapé abrite un mécanisme qui permet de faire tourner la sculpture. Je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer un tableau de Robert Lefebvre montrant notre Pauline en Daphné fuyant Apollon. Ce sujet est absolument invraisemblable. Si Pauline avait rencontré Apollon, elle se serait jetée sur lui. Revenons aux antiques. À l'époque du consulat, le noyau des collections françaises d'antiques du musée central des arts, qui deviendra le musée Napoléon, puis le musée du Louvre, est modeste, même s'il vient d'être augmenté des saisies de 1802 à 1803 consécutives au traité de Tolentino. En effet, le 19 février 1797, Napoléon Bonaparte a contraint Pie VI à signer le traité de Tolentino avec la France du Directoire. L'une des clauses du traité concerne la confiscation des trésors artistiques du Vatican. Les États pontificaux doivent donner une centaine de tableaux et d'œuvres d'art. Ainsi, le Laocoon et l'Apollon du Belvédère, deux des œuvres les plus célèbres, ornaient les galeries du Musée central des arts. Napoléon voulait augmenter le nombre d'œuvres d'art dont il jugeait indispensable d'orner les palais et les musées de sa capitale, et en particulier enrichir le musée qui porte son nom. Le 14 mai 1806, il demande à son ministre de l'Intérieur de faire évaluer la collection d'antiques de son beau-frère, Camillo Borghese, qu'il souhaite acquérir. Voici la note écrite sous la dictée de Sa Majesté. « Je désire que M. Daru, très secrètement, et en demandant le plus grand secret à M. Denon et à M. Visconti, fasse une évaluation de tous les chefs-d'œuvre de la maison Borghese. Combien puis-je en donner en supposant que le prince veuille les vendre? Comment les transporter? Où les placer à Paris? Les galeries du musée seraient-elles suffisantes? Et, dans le cas contraire, ne pourrais-je les placer à la Madeleine, dans l'église de la Madeleine? » Je vous rappelle que Dominique Vandenon, est le directeur des musées impériaux et du musée Napoléon. L'empereur fit donc évaluer les chefs-d'œuvre de la collection Borghese. La seule évaluation chiffrée de cette acquisition nous vient d'une lettre de Denon à l'empereur, datée de 1806, estimant à 5 millions la valeur marchande de la collection, mais proposant de la payer le double. Le décret d'achat ne fut signé que 15 mois plus tard, en septembre 1807. Le montant était passé de 10 à 12, puis à 13 millions, une somme considérable pour lever les réticences du prince. En effet, contrairement à ce qui est dit parfois, Camillo n'avait pas de difficultés financières et était peu enclin à se séparer de ses trésors. Il finit par céder, car il voyait bien que l'empereur était décidé à parvenir à ses fins. Cet achat concernait les antiques disposées dans la villa et, après négociation, celles intégrées dans les façades et dans le jardin. Une partie de la somme devait être payée en numéraire. Le domaine de l'abbaye de Lucedio, qui est à l'est de Turin, faisait partie du paiement en nature, et enfin des rentes permettaient de boucler le budget. Il faut donc détacher et descendre les sculptures, les buses, les bas-reliefs des façades de la villa. Cela représente un travail très important et délicat. Toutes les œuvres sont mises en caisse et envoyées par convoi vers Paris. Camillo Borghese réussira à reconstituer cette collection d'antiques en moins de 10 ans à partir de nouvelles fouilles, mais aussi de pièces en réserve dans les autres propriétés et dans les jardins. Le musée Napoléon était encore en travaux, et comme ceux-ci progressaient lentement, les travaux progressaient lentement, seules quelques pièces furent exposées. Il faut attendre 1811, à l'occasion du baptême du roi de Rome, pour admirer les chefs-d'œuvre Borghese exposés dans la salle des Cariatides. Mais à la chute de l'Empire en 1815, il fallut restituer toutes les sculptures saisies pendant les campagnes militaires. Les salles du musée sont en partie vidées, alors on finit d'ouvrir les caisses de la collection Borghese. Elles avaient été achetées, ces sculptures Borghese, donc on n'avait pas à les rendre. Et à la réouverture du musée en 1817, plus de 200 antiques Borghese sont exposées, complétées 3 ans plus tard par une 60aine d'autres. Mais l'inventaire exact des antiques Borghese n'avait jamais été fait, et il était difficile à établir. À l'arrivée des convois, l'inventaire était resté incomplet, inexact, car de nombreux objets étaient restés dans les caisses. La situation politique changeante et incertaine n'a pas encouragé un travail sérieux et exhaustif. Personne ne savait exactement combien de pièces de la collection Borghese se trouvaient dans les collections du Louvre, jusqu'à l'arrivée de Marie-Lou Fabrega-Dubert. Marie-Lou Fabrega-Dubert est chargée de mission au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre. Ancienne élève de l'école du Louvre, elle a soutenu en 2009, c'est très récent, sa thèse de doctorat d'État à l'université de Paris-Sorbonne sur l'acquisition de la collection Borghese par Napoléon Ier. Vous avez la page de couverture du catalogue qu'elle a réalisé. En 2009, elle a publié le résultat de plusieurs années de recherche. Cet énorme catalogue s'intitule « La collection Borghese au musée Napoléon ». Il pèse 6 kilos. Un énorme travail. Alors, ce n'est pas un ouvrage d'art, hein, ce sont des petites vignettes en noir et blanc, mais c'est totalement exhaustif, c'est formidable. Lorsque Napoléon Ier acheta la collection Borghese, il offrit à son musée la plus grande collection d'antiques de Rome en ce début du XIXe siècle. Connue par son origine princière et quelques chefs-d'œuvre exceptionnels, elle était méconnue dans le détail des œuvres qui la composent. Outre la composition exacte de la collection acquise par l'empereur, le catalogue apporte une réponse précise et documentée aux questions restées sans réponse jusqu'alors. Combien d'objets acquis? Quel type d'objets? Tous les objets acquis se trouvent-ils dans les collections aujourd'hui? Pour établir le catalogue, il fallait dresser la liste des objets qui ont été acquis par le décret impérial, reconnaître les objets, vérifier l'origine borghese de tel objet, etc., etc. Résultat du travail de recherche, 695 numéros au catalogue. Dans son ouvrage, Madame Fabrega-Dubert décrit les conditions du transport des œuvres vers Paris. Les convois s'étalent de 1808 à 1811. L'été 1808, les deux premiers convois quittent Rome chargés de chefs-d'œuvre. Les expéditions sont interrompues par la menace d'un conflit avec les Anglais. Le blocus des Anglais coupe la voie maritime, par la Méditerranée, qui aurait été beaucoup plus économique, mais Napoléon ne veut prendre aucun risque. Mais en revanche, la voie terrestre par les Alpes entraîne un immense surcoût. Il fallait penser à la fabrication des caisses, fabrication des chariots, la longueur des trajets était considérable, le personnel d'accompagnement était important. Au total, 400 caisses chargées sur des chariots traversent les Apennins, les Alpes, empruntent parfois les voies d'eau et cheminent jusqu'à Paris. Ce transport a nécessité une énorme logistique. Il existe une nombreuse correspondance où sont précisées les modalités du transport et l'organisation du voyage. Les chariots d'un même convoi doivent rester ensemble. Le convoi doit suivre la route prévue. Vérification des voitures à chaque étape et réparation nécessaire. Toutes les réparations seront notées et justifiées. Deux soldats de la garde précéderont le convoi pour organiser l'accueil, remiser les voitures, prévoir le logement des hommes, prévoir les écuries. Si l'un des hommes tombe malade, il sera conduit à l'hôpital. Si un ouvrier apporte un trouble, le trouble dans le voyage, il sera renvoyé, etc. Tout était prévu. À titre d'exemple, deux convois sont dirigés vers la France par voie de terre. Le premier convoi comporte 47 caisses, le deuxième part en avril 1108, il contient 15 caisses. Voici le contenu du deuxième convoi. Il n'y a pratiquement que des chefs-d'œuvre. Une statue d'Achille, alors je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas, parce que souvent il y a plusieurs versions et je ne sais pas de quel Achille il s'agit. Je n'ai pas retrouvé. Une statue de Bacchus, là non plus je n'ai pas trouvé. Mais il y a la statue d'Apollon Soracton, célébrissime sculpture qui se trouve donc au Louvre. Soracton signifie tueur de lézards, hein, tout simplement. Le grand vase Borghese. C'est l'un des vases antiques en marbre les plus admirés. Les reliefs qui décorent ce marbre représentent un cortège bachique avec Bacchus et Ariane. À gauche, le groupe de Vénus avec Eros, d'après un original de Praxitèle. Alors, l'original de Praxitèle, c'était une Aphrodite, mais comme c'est une copie romaine, elle est devenue une Vénus. Hein. À chaque fois, il y a la correspondance. Bon, peu importe. À droite, une statue d'un jeune faune jouant de la flûte. Il y en a deux versions au Louvre. Le centaure, chevauché par l'amour, qui se trouve dans la salle des cariatides. À gauche, une statue d'Eros qu'on appelle aussi le génie Borghese. Et à droite, le Silène portant Dionysos, enfant dans ses bras. Une statue de l'empereur Germanicus, comme je vous l'ai dit, la base, le support et une partie des jambes sont modernes, ont complété. Hein, donc, mais c'était courant et c'est comme ça et on ne cherche pas à faire autrement. À droite, c'est l'empereur Claude, le frère de Germanicus. Toutes deux, les deux sculptures ornaient le forum de Gabis. Les deux dernières sculptures de ce convoi sont deux célèbres chefs-d'œuvre, l'hermaphrodite endormi et la statue du gladiateur. Alors, nous sommes ici dans la salle des cariatides, où il y a pas mal de chefs-d'œuvre de la collection Borghese, et vous devinez à droite l'hermaphrodite endormi. Hein, voilà. L'œuvre est une copie romaine d'un original grec du IIe siècle avant notre ère. Mise à jour à Rome en 1608, la statue fut acquise par le cardinal Borghese. Je vous rappelle qu'à l'origine, Hermaphrodite est un garçon. Comme son nom l'indique, il est le fils d'Hermès et d'Aphrodite, et il hérite, à sa naissance, la beauté de ses deux parents. Alors qu'il avait une quinzaine d'années, il se baignait nu dans une source de Carie. Ça correspond à la région de Bodrum, au sud-ouest de la Turquie. La source était habitée par la naïade Salmacis qui observe le bel adolescent et s'éprend de lui. Comme il repousse fermement ses avances, elle l'étreint de force et supplie Poséidon, son père, d'être né à lui pour toujours. Le vœu est exaucé, ils ne forment dès lors plus qu'un seul être bisexué à la fois mâle et femelle. Salmacis a un comportement inhabituel parmi les nymphes. Sa tentative de viol sur Hermaphrodite constitue d'ailleurs un cas unique pour une nymphe grecque. En langage contemporain, il s'agit d'un viol sur mineur. Finalement, c'est une inexactitude d'appeler cette sculpture Hermaphrodite, car le personnage représentait le résultat de la fusion des deux corps, celui d'Hermaphrodite et de Salmacis. Il est rapporté que Scipionée conservait cette statue dans un placard en bois spécialement construit, dont il aurait théâtralement ouvert les portes à l'amusement de ses amis proches. Cela fait immanquablement penser à l'origine du monde de Gustave Courbet. Le psychanalyste Jacques Lacan a conservé ce tableau jusqu'à sa mort. Il l'avait dissimulé dans un coffret dont le couvercle était orné d'une peinture d'André Masson. Seuls les initiés pouvaient contempler l'original. L'hermaphrodite du Louvre est la plus belle version connue. En 1619, Scipione demanda à Gian Lorenzo Bernini de réaliser le matelas de marbre sur lequel la sculpture repose désormais. Ce matelas de marbre ressemble un peu au style Chippendale. J'ai une anecdote personnelle à vous raconter. Il y a déjà plusieurs années, j'étais dans la salle des cariatides au Louvre quand je remarquais un groupe de touristes japonais près de l'hermaphrodite. Ils étaient rassemblés autour de leur guide, une jeune femme, mais ils étaient tous du côté des fesses. Du côté pile, comme nous, actuellement. Je me suis approché et j'ai observé que lorsque l'un des membres du groupe s'aventurait à contourner la sculpture, il ou elle se faisait rappeler à l'ordre par la guide. Alors j'ai fait un signe aux touristes de venir près de moi pour voir l'autre sculpture de l'autre côté de la sculpture. Une jeune japonaise a osé transgresser l'interdit et en voyant le sexe dressé, elle a poussé un petit cri de surprise suivi d'un rire. Elle a fait signe à ses amis de venir la rejoindre et finalement tout le groupe s'est précipité auprès d'elle pour découvrir la particularité inhabituelle de la sculpture, au grand désespoir de la guide qui était complètement débordée et désespérée. Alors voici un autre aspect de cette hermaphrodite, avec un visage d'une extraordinaire délicatesse. Et je vous montre un tableau de François-Joseph Navelle. C'est un peintre néoclassique, tout simplement. Le tableau date de 1829, qui représente Salmacis hermaphrodite. Vous voyez qu'hermaphrodite est très réticent au projet de Salmacis. Je vous ai dit qu'à la Villa Borghese, on l'a aperçu tout à l'heure, un deuxième hermaphrodite avait remplacé celui qui était parti au Louvre. Or, non seulement la pièce est plongée dans une semi-obscurité, mais la sculpture est plaquée contre le mur de telle façon qu'on ne puisse la contourner. Et il en va de même au musée de l'Ermitage. Alors qu'au Louvre, on peut faire le tour. En visitant le musée de Lens, Louvre-Lens, j'ai eu la surprise de découvrir un troisième hermaphrodite qui appartient aussi aux collections du Louvre. Il a été découvert près de Rome en 1795. Cet hermaphrodite a appartenu à la collection du pape Paul VI, un brachy. Du côté face, on peut remarquer qu'Hermaphrodite est dépourvu de son membre viril. Sans doute sculpté séparément, il était peut-être amovible, peut-être craignait-on que quelqu'un vole l'objet. On trouve un autre exemplaire au musée national romain, dans les termes de Dioclétien, un autre au musée de l'Ermitage et un autre enfin au musée des Offices, qui est moins beau. Le gladiateur Borghese, qui n'est pas un gladiateur. L'une des pièces maîtresses de la collection est le fameux gladiateur Borghese, sculpté à Éphèse, en Grèce, entre 130 et 90 avant notre ère. Ce nu masculin est célèbre par le dynamisme de son attitude. Cette sculpture a été découverte sur une propriété des Borghese. Dès le XVIIIe siècle, Visconti conteste l'interprétation de la sculpture du gladiateur. Il ne peut s'agir d'un gladiateur car les Grecs ne connaissaient pas les spectacles de gladiateurs et ceux-ci, les gladiateurs, ne combattaient pas nus. La signature du sculpteur figure sur le tronc d'arbre, Agathias d'Éphèse. La vigueur du modelé des muscles rappelle les recherches de Lysippe, grand bronzier du IVe siècle avant Jésus-Christ. Le guerrier combattant pourrait ainsi être une copie hellénistique réalisée pour un commanditaire romain à partir d'un bronze fait par Lysippe ou par l'un de ses suiveurs à la fin de l'époque classique. Les 14 morceaux principaux découverts, au début on n'avait que 14 morceaux, hein, il était en morceaux, ont été assemblés probablement par Nicolas Cordier, un sculpteur qui travaillait pour la famille Borghese. Pendant sa restauration en 1611, la statue reçoit un bras droit manquant qui a été restitué dans le prolongement arrière du corps. Il s'agit de ce bras-là. Il était manquant. Et donc on a refait un bras sans savoir comment il était. en portant... pardon. Le bras droit est complètement tendu alors qu'il aurait pu être plié à partir du coude pour porter l'épée plus horizontalement. La statue représente un guerrier censé combattre un adversaire qui le dominait du côté gauche, sans doute à cheval. C'est de ce côté que le guerrier tourne la tête et qu'il se protégeait en portant un bouclier en hauteur dont la tache est sculptée à l'avant-bras gauche. De son bras droit, il s'apprêtait à porter un coup d'épée. La sculpture devient une icône de l'art grec antique. À l'époque de Scipione, c'était la sculpture la plus célèbre de la Grèce antique. La Vénus de Milo ne sera découverte qu'en 1820 et la Victoire de Samothrace en 1863. Lors de l'achat des antiques de la collection Borghese par Napoléon, la première estimation pour l'ensemble de la collection était de 5 millions de francs, mais le gladiateur valait à lui seul un quart du montant total. Une anecdote un peu à part, l'impératrice Joséphine a profité de ce deuxième convoi pour faire expédier deux sculptures d'Antonio Canova qu'elle avait achetées, Hébé et ici, et Cupidon et Psyché. Il avait sous les yeux Hébé. À sa mort en 1814, Joséphine possédait quatre grandes sculptures en marbre d'Antonio Canova. Elles étaient exposées à la Malmaison. Après la mort de Joséphine, elles ont été achetées par l'empereur de Russie, Alexandre Ier, et se trouvent actuellement au musée de l'Ermitage. Je vous montre encore quelques antiques majeures de la collection. Un sarcophage, parmi d'autres, il y en a beaucoup. Achille chez le roi Lycomède. Achille se précipite sur les armes. Cette œuvre était autrefois découpée en quatre plaques encastrées dans les façades de la Villa Borghese. Le sarcophage a été reconstitué au Louvre. Une statue dite de Jules César à gauche et Jupiter Borghese à droite qui est au musée de Lens pour l'instant. La Diane de Gabis, dont je vous ai parlé tout à l'heure, célébrissime, et puis Claude Viviani, ça doit lui dire quelque chose, cette sculpture, hein, son petit bronze. La statue est découverte en 1792 par Gavin Hamilton sur la propriété du prince Borghese à Gabis, non loin de Rome. Et à droite, l'impératrice Livie en Cérès. Elle mesure 2,53 m, l'impératrice. Hein. Deux sportifs, un pugiliste et un discophore. Alors le discophore, c'est celui qui porte le disque, à la différence du discobol qui le lance. Un galate blessé, un guerrier blessé, c'est une copie romaine d'un original grec de la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ, et un Héros bandant son arc, un buste colossal d'Antinous. Il mesure 95 cm. On va simplifier, on va dire un mètre. On l'appelle l'Antinous Mandragon. C'est un marbre. Le buste était inséré dans un corps sculpté dans un matériau différent. Il faut multiplier par 7, en gros, hein, pour avoir l'ensemble de la sculpture. Le monument mesurait environ 7 mètres de haut. Vous voyez en bas à droite le buste de Gordien III qui provient également de Gabis. Et vous avez une vue des appartements, de l'une des salles des appartements d'Anne d'Autriche, les appartements d'été d'Anne d'Autriche au Louvre, où sont rassemblés un grand nombre de bustes et de sculptures des empereurs romains. Marcia supplicié pour avoir défié Apollon dans un concours musical. C'est une copie romaine d'après un original hellénistique. Ce corps suspendu est une œuvre très originale à l'époque, une œuvre très importante. Un vieux pêcheur. Cette sculpture est bien sûr connue sous le nom de Sénèque mourant, mais ce n'est pas Sénèque. Cette statue de vieillard en marbre noir se trouvait dans la collection du duc Alton. Il y a un palais Alton à Rome. L'œuvre fut acquise par le cardinal Scipione. Il s'agit sans doute de l'image d'un pêcheur, un type statuaire créé à l'époque hellénistique, abondamment restauré et placé dans une vasque à la surface rouge sang. Elle fut identifiée à Sénèque, le précepteur de Néron, contraint au suicide. La statue eut une renommée considérable. Rubens en fit le sujet de la mort de Sénèque. C'est un tableau qui se trouve à Munich, qui est à droite. Un groupe d'Oreste et Pylade, c'est une ancienne, qui faisait partie de l'ancienne collection della Porta, puis achetée par les Borghese. Enfin, les Trois Grâces. Le groupe a été largement restauré par Nicolas Cordier en 1609 à la demande du cardinal Scipione Borghese. Les têtes toutes modernes sont inspirées de copies romaines. Je terminerai cet aperçu sur l'histoire des collections borghèses en rendant hommage à ces quatre personnages. Scipione a rassemblé les antiques, Pauline a épousé leur propriétaire, Camillo, qui, un peu contraint, les a vendus à Napoléon. Grâce à eux, le musée du Louvre s'est enrichi d'une admirable collection d'antiques que nous pouvons toujours contempler. Grazie mille per la vostra attenzione. Thank you.